Lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829, écrites par Jean-François Champollion. Troisième partie de 3, de la 18e lettre. Le lecteur bénévole vous rappelle que Jean-François Champollion est ici en train de décrire, selon ses mots, la magnifique cour de Medinet Abou. Toute cette série de princes et de princesses forme la décoration du soubassement à la droite et à la gauche d'une grande et belle porte s'ouvrant sur le milieu de la galerie de l'ouest. On entrait jadis, en la traversant, dans une troisième cour environnée et suivie d'un très grand nombre de salles. Les décombres ont depuis longtemps enseveli toute cette partie du palais, existant encore sous les débris entassés des frêles constructions qui se sont succédées d'âge en âge. Des fouilles en grand mettraient ici à découvert des tableaux et des inscriptions d'une haute importance. Mes moyens ne me permettant pas de penser à les entreprendre, je réservai les fonds dont je pouvais disposer pour le déblaiement des grands bas-reliefs qui couvrent toute la partie extérieure nord du palais à partir du premier pylône et la presque totalité de la muraille extérieure sud, enfouie jusqu'à la corniche qui couronne l'édifice entier. La muraille nord offre une série de bas-reliefs historiques d'un haut intérêt. Je donnerai ici un cours abrégé du sujet de chacun d'eux, en commençant par l'extrémité de la paroi vers l'ouest. Campagne contre les Machaouches et les Robous. Premier tableau. L'armée égyptienne en marche sur 8 ou 9 rangées de hauteur. Un trompette et un corps d'hoplites précèdent un char que dirige un jeune conducteur. Du milieu de ce char s'élève un grand mât surmonté d'une tête de bélier ornée du disque solaire. C'est le char du dieu Amon-Ra qui guide à l'ennemi le roi Ramsès Meyamoun, également monté sur un char richement orné et qu'entourent les archers de la garde ainsi que les officiers attachés à sa personne. On lit à côté du char du dieu, deux points. Voici ce que dit Amon-Ra, le roi des dieux. Je marche devant toi, ô mon fils. Deuxième tableau. Bataille sanglante. Les Machaouches prennent la fuite. Le roi et 4 princes égyptiens en font un horrible carnage. Troisième tableau. Ramsès, debout sur une espèce de tribune, harangue 5 rangées de chefs et de guerriers égyptiens, conduisant une foule de Machaouches et de Robous prisonniers. Réponse des chefs militaires. Au roi. En tête de chaque corps d'armée, on fait le dénombrement des mains droites coupées aux ennemis morts sur le champ de bataille, ainsi que celui de leur phallus, sorte d'hommage rendu à la bravoure des vaincus. L'inscription porte à 2525 le nombre de ces preuves de victoire sur des hommes courageux et vaillants. Campagne contre les Fekaros, les Chakalachas et peuples de même race à physionomie hindoue. Premier tableau, à la suite des précédents. Le roi Ramsès Meyamoun, en costume civil, harangue les chefs de la caste militaire agenouillés devant lui, ainsi que les porte-enseignes des différents corps. Plus loin, les soldats debout écoutent les paroles du souverain qui les appelle aux armes pour punir les ennemis de l'Égypte. Les chefs répondent à l'appel du roi en invoquant ses victoires récentes et protestent de leur dévouement à un prince qui obéit aux paroles d'Amon-Ra. La trompette sonne, les arsenaux sont ouverts. Les soldats, divisés par peloton et sans armes, s'avancent dans le plus grand ordre, guidés par leur chef. On leur distribue des casques, des arcs, des carquois, des haches de bataille, des lances et toutes les armes alors en usage. Deuxième tableau. Le roi, tête nue et les cheveux nattés, tient les rênes de ses chevaux et marche à l'ennemi. Une partie de l'armée égyptienne le précède en ordre de bataille. Ce sont les fantassins pesamment armés ou hoplites. Sur le flanc s'avancent par peloton les troupes légères de différentes armes. Les guerriers montés sur des chars ferment la marche. Une des inscriptions de ce bas-relief compare le roi au germe de Mandou, s'avançant pour soumettre la terre à ses lois. Ses fantassins à des taureaux terribles et ses cavaliers à des éperviers rapides. Troisième tableau. Défaite des Fécaros et de leurs alliés. Les fantassins égyptiens les mettent en fuite sur tous les points du champ de bataille. Mais Yamoun, secondé par ses chars de guerre, en fait un horrible carnage. Quelques chefs ennemis résistent encore, montés sur des chars traînés soit par deux chevaux, soit par quatre bœufs. Au milieu de la mêlée et à une des extrémités, plusieurs chariots traînés par des bœufs et remplis de femmes et d'enfants sont défendus par des fécaros. Des soldats égyptiens les attaquent et les réduisent en esclavage. Quatrième tableau. Après cette première victoire, l'armée égyptienne se remet en marche, toujours dans l'ordre le plus méthodique et le plus régulier, pour atteindre une seconde fois l'ennemi. Elle traverse des pays difficiles, infestés de bêtes sauvages. Sur le flanc de l'armée, le roi, attaqué par deux lions, vient de terrasser l'un et combat contre l'autre. Cinquième tableau. Le roi et ses soldats arrivent sur le bord de la mer au moment où la flotte égyptienne en est venue aux mains avec la flotte des Fécaros, combinée avec celle de leurs alliés, les Chérotanas, reconnaissables à leurs casques armés de deux cornes. Les vaisseaux égyptiens manœuvrent à la fois à la voile et à l'aviron. Des archers en garnissent les unes, et leur proue est ornée d'une tête de lion. Déjà, un navire fécarien a coulé, et la flotte alliée se trouve resserrée entre la flotte égyptienne et le rivage, du haut duquel Ramsès Meyamoun et ses fantassins lancent une grêle de traits sur les vaisseaux ennemis. Leur défaite n'est plus douteuse. La flotte égyptienne entasse les prisonniers à côté de ses rameurs. En arrière et non loin du pharaon, on a représenté son char de guerre et les nombreux officiers attachés à sa personne. Ce vaste tableau renferme plusieurs centaines de figures et j'en rapporte une copie très exacte. Sixième tableau. Le rivage est couvert de guerriers égyptiens conduisant divers groupes mêlés de Chérotanas et de Fécaros prisonniers. Les vainqueurs se dirigent vers le roi, arrêtés avec une partie de son armée devant une place forte nommée Mogadiro. Là se fait le dénombrement des mains coupées. Le pharaon, du haut d'une tribune sur laquelle repose son bras gauche, appuyé sur un coussin, harangue ses fils et les principaux chefs de son armée, et termine son discours par ces phrases remarquables. Deux points. Amon-Ra était à ma droite comme à ma gauche. Son esprit a inspiré mes résolutions. Amon-Ra lui-même, préparant la perte de mes ennemis, a placé le monde entier dans mes mains. Les princes et les chefs répondent au pharaon qu'il est un soleil appelé à soumettre tous les peuples du monde, et que l'Égypte se réjouit d'une victoire emportée par le bras du fils d'Amon, assis sur le trône de son père. Septième tableau. Retour du pharaon vainqueur à Thèbes, après sa double campagne contre les Robous et les Fécaros. On voit les principaux chefs de ces nations conduits par Ramsès devant le temple de la grande triade thébaine, Amon-Ra, Mout et Khons. Le texte des discours que sont censés prononcer les divers acteurs de cette scène, à la fois triomphale et religieuse, subsiste encore en grande partie. En voici la traduction. Deux points. Parole des chefs du pays de Fécaro et du pays de Robou, qui sont en la puissance de sa majesté et qui glorifient le Dieu bienfaisant, le Seigneur du monde, soleil gardien de justice, ami d'Amon. Deux points. Ta vigilance n'a point de borne. Tu règnes comme un puissant soleil sur l'Égypte. Grande est ta force, ton courage est semblable à celui de Boré, le griffon. Nos souffles t'appartiennent, ainsi que notre vie, qui est en ton pouvoir à toujours. Parole du roi Seigneur du monde, etc. À son père Amon-Ra, le roi des dieux, deux points. Tu me l'as ordonné, j'ai poursuivi les barbares, j'ai combattu toutes les parties de la terre, le monde s'est arrêté devant moi. Mes bras ont forcé les chefs de la terre, d'après le commandement sorti de ta bouche. Parole d'Amon-Ra, Seigneur du ciel, modérateur des dieux, deux points. Que ton retour soit joyeux. Tu as poursuivi les neuf arcs, les barbares. Tu as renversé tous les chefs. Tu as percé les cœurs des étrangers et rendu libre le souffle des narines de tous ceux qui, trois points, lacune. Ma bouche t'approuve. Ces tableaux, qui retracent les principales circonstances de deux campagnes du conquérant égyptien dans la 11e année de son règne, arrivent jusqu'au second pylône du palais. De ce point jusqu'au premier pylône, les sculptures n'abondent pas moins, mais plusieurs tableaux sont enfouis sous des collines de décombres. J'ai pu cependant avoir une copie de deux bas-reliefs faisant partie d'une troisième campagne du roi contre des peuples asiatiques avec des légendes en très mauvais état. L'un représente Ramsès Meyamoun combattant à pied, couvert d'un large bouclier et poussant l'ennemi vers une forteresse assise sur une hauteur. Dans le second tableau, le roi, à la tête de ses chars, écrase ses adversaires en avant d'une place dont une partie de l'armée égyptienne pousse le siège avec vigueur. Des soldats coupent des arbres et s'approchent des fossés, couverts par des mantelets. D'autres, après les avoir franchis, attaquent à coups de hache la porte de la ville. Plusieurs, enfin, ont dressé des échelles contre la muraille et montent à l'assaut, leurs boucliers rejetés sur leurs épaules. Sur le revers du premier pylône existe encore un tableau relatif à une campagne contre la grande nation de Cheta ou Cheto. Le roi, debout sur son char, prend une flèche dans son carquois, fixée sur l'épaule, et la décoche contre une forteresse remplie de barbares. Les soldats égyptiens et les officiers attachés à la personne du roi marchent à sa suite, rangés sur quatre files parallèles. Telles sont les grandes sculptures historiques, encore visibles dans l'état d'enfouissement où se trouve aujourd'hui le magnifique palais de Medineh Habu, tout entier du règne de Ramsès Meïamoun, les successeurs immédiats n'y ayant ajouté que quelques accessoires presque insignifiants. Le nombre considérable de noms de peuples et de nations asiatiques ou africaines que j'y ai recueillis ouvre un nouveau champ de recherche à la géographie comparée. Ce sont de précieux éléments pour la reconstruction du tableau ethnographique du monde dans la plus antique période de son histoire. Je crois possible de reconnaître la synonymie de ces noms égyptiens de peuples avec ceux que nous ont transmis les géographes grecs et ceux surtout que contiennent les textes hébreux et les mémoires originaux des nations asiatiques. C'est un beau travail qui mérite d'être entrepris. Il sera facilité et par la connaissance positive des traits du visage et du costume de chacun de ces peuples, et encore mieux sans doute par la comparaison de ces noms avec ceux du même genre que j'ai trouvé, en bien plus grand nombre, sur d'autres monuments de Thèbes et de la Nubie. Toute la muraille extérieure du palais, du côté du sud, qu'il a fallu faire déblayer jusqu'au second pylône, est couverte de grandes lignes verticales d'hiéroglyphes contenant le calendrier sacré en usage dans le palais de Ramsès. La portion que nous avons fait excaver, à grands frais, contient les mois de Thoth, Paofi, Hathor, Choiyak et Tobi. Vers l'extrémité du palais est un article du mois de Pachon, le 9e mois de l'année égyptienne. Ce calendrier indique toutes les fêtes qui se célébraient dans chaque mois, et au bas de chaque indication de fête, on a sculpté, en tableau synoptique, le nombre de chaque sorte d'offrande qu'on devait présenter dans la cérémonie. Pour donner une idée de cette sorte de calendrier, je transcrirai ici la traduction de quelques-uns de ces articles. 2. Mois de Thoth, Néoménie, manifestation de l'étoile de Sothis, l'image d'Amon-Ra, roi des dieux, sort processionnellement du sanctuaire, accompagné par le roi Ramsès ainsi que par les images de tous les autres dieux du temple. Mois de Paofi, le 19, jour de la principale panégyrie d'Amon, qui se célèbre pompeusement dans Hof, le palais de Karnak. L'image d'Amon-Ra sort du sanctuaire, ainsi que celle de tous ses dieux saint-trônes. Le roi Ramsès l'accompagne dans la panégyrie de ce jour. Mois d'Hathor, le 26, panégyrie de Phtar Socharis. Le roi accompagne l'image du dieu gardien du Ramesseum de Meïamoun, le palais de Medineh Habu, de Thèbes sur la rive gauche, dans la panégyrie de ce jour. Cette panégyrie continuait encore le 27e et le 28e jour du même mois. C'est celle qu'on a représentée dans les grands bas-reliefs supérieurs des galeries de l'est et du sud de la seconde cour du palais. Du reste, je savais déjà par un très grand nombre d'inscriptions que les Égyptiens appelaient Ramesseum de Meïamoun le monument de Medineh Habu, dont je viens de donner une description rapide, car Comment entreprendre de tout dire dans une lettre? Je termine ici celle d'aujourd'hui. Adieu. Fin de la troisième partie de 3 de la 18e lettre des lettres écrites d'Égypte par Jean-François Champollion, ainsi que du 21e fichier.